C'est un organe fascinant et complexe qui est beaucoup plus qu'une simple enveloppe. C'est donc notre peau qui nous intéresse cet après-midi. Depuis toujours, les hommes et les femmes ont essayé de ralentir les effets du temps sur la peau pour rester jeune et beau le plus longtemps possible. Et avec mes invités, nous allons explorer les secrets de cet organe finalement assez mal connu pour comprendre les causes et les mécanismes de son vieillissement. C'est donc notre dossier dans un instant avec toutes vos questions à nos invités dermatologues et philosophes franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Axel Villard, bonjour.
Et bonjour.
À la une de la science aujourd'hui, eh bien, on se retrouve au niveau du caniveau.
Oui, Mathieu, avec la première analyse des formes de vie qui se développent dans les 3400 km de caniveau à Paris. On fait l'inventaire des trouvailles avec le biologiste Pascal Lopez.
Et on a hâte. Et puis en fin d'émission, nous retrouverons la voix de Stéphane Paoli qui va nous parler d'un rendez-vous scientifique qui commence demain à Marseille. C'est Sonia Leglen qui réalise aujourd'hui l'émission préparée par Lucie Sarfati.
La tête au carré. Le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Avec les effets du temps sur la peau, dossier donc dans un instant avec mes invités que je salue, la dermatologue Françoise Rodin et le philosophe Bernard Andrieux. Bonjour.
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 Françoise Rodin, est-ce que la peau des hommes et des femmes vieillissent de la même manière?
Absolument pas.
Nous ne sommes pas égaux.
Nous ne sommes pas égaux, je suis désolée. Aïe. C'est du reste que pour cette raison que dans mon livre, je m'adresse essentiellement aux femmes. Alors c'est pas du tout, ne le prenez pas comme de la misandrie de ma part, pas du tout, mais c'est parce qu'on n'a pas la même peau. Elle ne vieillit pas pareil. Les demandes masculines en matière de rajeunissement sont complètement différentes des demandes féminines. Ça aurait été absurde de traiter les choses en même temps.
J'aurais le droit de vous poser des questions quand même pour les garçons.
Tout à fait, et vous avez un chapitre entier.
Absolument.
Qui n'est rien que pour vous, messieurs.
C'est ça, merci beaucoup, vous êtes bien aimable. Bernard Andrieux, le mythe de Jouvence, ça persiste toujours depuis la nuit des temps?
Oui, ça a toujours existé, hein, l'idée de rester beau, de se référer à une sorte de mythe grec, d'être comme des belles statues. Mm-hmm. C'est toujours l'idée finalement de, est-ce que je vais pouvoir conserver mon capital santé, mon capital beauté?
Et on a des moyens d'y parvenir quand même aujourd'hui. Hein.
Apparemment oui, on peut essayer outils. D'avoir plusieurs attitudes par rapport à ça. Oui.
Allez, on va se retrouver dans un instant pour cette discussion avec les questions des auditeurs et les messages sur franceinter.fr.
La science de l'environnement. En partenariat avec Reporter.net, le quotidien de l'écologie.
La biodiversité des caniveaux parisiens aujourd'hui à la une de la science avec une étude française unique au monde publiée vendredi et qui s'est intéressée aux formes de vie jusqu'ici inconnues qui foisonnent dans ces ruisseaux urbains. Des algues, des champignons, des bactéries, des éponges et même des mollusques. On découvre ces écosystèmes des caniveaux avec notre invité Axel.
Oui Mathieu et bonjour Pascal Lopez.
Bonjour.
Vous êtes biologiste pour le CNRS, spécialiste des formes de vie aquatique. Vous êtes un des auteurs de ces travaux. On est également en studio avec Hervé Kempf pour le magazine Reporter. Bonjour Hervé.
Bonjour Axel.
Alors bien sûr, une première comme ça, ça va forcément intéresser les écologistes que vous représentez à notre micro.
Dont je suis le journaliste observateur, voilà. Disons. Mais oui, vous vous rappelez peut-être effectivement qu'il y a longtemps, dans les années 70, deux jeunes gens qui ont depuis très mal fini avaient écrit un livre, un sémillant, L'aventure est au coin de la rue. Eh bien, on peut de même dire que l'écologie est au fond du caniveau, car au sein du torrent peu ragoûtant qui sillonne les trottoirs de Paname, on trouve, comme l'a dit Mathieu, des micro-algues, des champignons, des éponges, en fait, des eucaryotes, si on veut être scientifique. Et les chercheurs ont inventorié 6900 espèces de ces eucaryotes, surtout d'ailleurs des micro-algues, on va le voir. C'est une biodiversité étonnante, et d'autant plus que de nombreuses espèces sont spécifiques à ce milieu. Et même si ce milieu n'est pas très attirant, les espèces qui y vivent pourrait être très utile. Autrement dit, c'est un nouvel écosystème qui apparaît et qui explique pourquoi, aujourd'hui, la tête au carré. Comme reporter, nous faisons de la presse de caniveaux.
Merci. Eh oui, bien sûr.
Pascal Lopez, alors comment vous est venue cette idée d'aller voir ce qui se passe dans les caniveaux?
Un peu comme tout Parisien, en marchant simplement, en allant au travail, en regardant les caniveaux. Mais ce qu'il y a de spécifique dans certains caniveaux, c'est une couleur marron, spécifique des algues sur lesquelles on travaille, avec la présence de bulles en surface. Et c'est ça qui a attiré mon attention, de savoir qu'est-ce que faisaient ces algues-là et combien il y en avait.
Alors quel protocole il faut mettre en place pour aller s'intéresser ou travailler sur la vie des caniveaux ?
Alors nous, on s'intéresse à la biodiversité urbaine en général, et donc pour ce compartiment, on va regarder donc l'eau qui circule dans ce caniveau, mais aussi le biofilm, donc les organismes qui sont accrochés, en les décrochant tout simplement avec une brosse à dents.
Et vous êtes allé gratter au fond ?
On est allé gratter au fond.
D'accord.
Et c'est ça qu'on récupère et qu'on analyse au niveau moléculaire.
Et alors qu'est-ce que vous trouvez ? Quelles formes de vie sont les plus abondantes ?
Alors du coup, les formes de vie les plus abondantes, à l'époque où on a regardé, c'est au mois de juin, c'est essentiellement des diatomées, qui sont des micro-algues, de micro-algues brunes, comme les grandes algues brunes qu'on a sur nos plages. Et ça représente près de 60% en fait de la diversité des présentes dans les caniveaux. Et après, on retrouve effectivement une diversité nombreuse avec, comme on l'a dit, des espèces très, très, très différentes et de différents compartiments, des eucaryotes, des petits. Mais on a essentiellement regardé les petites bêtes.
D'accord.
Tout simplement.
Il y a eu des surprises pour vous ou pas ?
Oui, la diversité, en fait, a été absolument remarquable. Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Je ne savais pas s'il y en avait un peu, beaucoup ou moyennement.
Ouais.
Et le chiffre est beaucoup plus impressionnant que ce que j'eus cru au départ. Et ce qui est assez étonnant aussi, c'est qu'à l'échelle de la ville, il n'y a pas grand-chose qui se ressemble. C'est-à-dire que deux caniveaux qui sont relativement proches ne présentent absolument pas ou pas toujours la même diversité, c'est ce qui est le plus étonnant.
Donc il y a des écosystèmes très nombreux qui se côtoient finalement.
Il y a des écosystèmes très nombreux qui se côtoient et aujourd'hui on ne comprend pas l'origine de cette diversité.
Ah oui.
Pourquoi dans deux rues comme celle que j'ai échantillonnée derrière Radio France, avec une centaine d'espèces retrouvées effectivement.
Et on ne vous demandera pas ce que vous avez trouvé dans les caniveaux de Radio France.
Combien de rues au total vous avez échantillonné ?
On a échantillonné une centaine de rues sur l'ensemble de la capitale, couvrant tous les arrondissements.
C'est différent de ce qu'on trouve dans les égouts, en fait.
On n'a pas comparé, ce même type d'analyse dans les égouts n'a pas été faite, mais on peut imaginer facilement une différence. Déjà, nous, on est en surface, donc du coup, il y a le soleil, il y a la lumière, et donc il y a les micro-algues.
Alors, quel rôle joue cet écosystème dans l'environnement urbain ?
Alors, comprendre ce rôle de cet écosystème est absolument important, puisqu'il est présent partout, en quantité relativement importante. Aujourd'hui, on ne sait rien. Donc, on a simplement des hypothèses de... quels sont les rôles qu'ils pourraient jouer ? Des rôles notamment en termes de dépollution, c'est-à-dire que c'est des organismes adaptés à cet écosystème. Et donc forcément, ils vont se nourrir, entre guillemets, de ce qu'on leur donne à manger. Et ce qu'on leur donne à manger, c'est notamment, effectivement, des déchets.
Alors,
des déchets,
ils bossent pour la mairie de Paris, en fait.
Des déchets sûrement, des déchets humains ou des déchets organiques ou des déchets de voiture, enfin des déchets présents.
Mais on pourrait imaginer valoriser ces écosystèmes en les faisant proliférer un petit peu plus ?
Je pense que l'une des idées à tester, ce serait effectivement de voir si ces écosystèmes ne jouent pas vraiment des rôles actifs, c'est-à-dire qu'ils puissent constituer des premières étapes de purification de ce qu'on leur met en présence.
Et concrètement, parce qu'en fait, ce qui est étonnant dans votre étude, c'est qu'elle a l'air très nouvelle. Vous êtes vraiment un des premiers, avec votre équipe bien sûr, à avoir travaillé sur ce domaine.
Il y a effectivement aujourd'hui aucune étude mondiale sur les caniveaux. Donc la biodiversité urbaine est une thématique qui émerge ces dernières années. Donc il y a pas mal de choses qui sont faites dans le métro, mais sur les caniveaux, non. Ça n'intéressait personne, peut-être.
Donc vous êtes le premier canivologue officiel, ici au micro des Eaux Carrées.
Vous n'en parlez pas dans la publication. Vous n'avez pas trouvé de bactéries dans ces caniveaux ?
Alors des bactéries, on les a analysées. On n'a pas complété ou fini nos analyses à l'heure actuelle. Je pense qu'il y a un nombre non négligeable et relativement important. Une diversité sûrement assez riche qui fera la suite.
C'est le prochain papier, alors.
Et sûrement. Ça promet certainement, non ? Parce
oui, je pense
de la variété des bactéries, on va trouver des choses intéressantes, non ?
Oui, ce qui est important, c'est savoir quelles sont ces bactéries qui sont associées à ces bêtes-là, plus que effectivement trouver des bactéries pathogènes opportunistes où on est à peu près sûr, en fonction des caniveaux,
d'en trouver. Ouais.
Quelles sont les prochaines étapes de votre travail ? Alors, qu'est-ce que vous avez envie de faire pour aller plus loin ?
Bah, aller plus loin, c'est regarder, du coup, là, c'était une étude ponctuelle, donc on voudrait voir au cours de l'année comment ça évolue en fonction des différentes périodes du temps, et puis après, faire évidemment des études comparées pour savoir effectivement cette diversité présente sur Paris, à quoi ça représente à l'échelle de la ville parisienne ou d'autres villes, d'autres métropoles, d'autres villes françaises, et aussi à l'outre-mer, qui est pas négligeable puisque les températures sont chaudes et donc la diversité et la prolifération peut être relativement différente.
On le disait tout à l'heure, il y a plus de 3000 km de caniveaux à Paris, hein, c'est
ça. Oui, c'est ça.
Alors pour ceux qui veulent voir en image les diatomées, c'est ces petites algues, on a mis une vidéo sur la page Facebook. Et merci beaucoup Pascal Lopez.
Oui, on vous verra travailler d'ailleurs avec vos pipettes hein, dans les caniveaux. Donc pour ceux qui voient un homme penché avec une pipette et une brosse à dents, hein, voilà. C'est vous. Probablement. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Et donc, travaux qui viennent de faire l'objet d'une étude et qu'on retrouvera dans les pages de reporter.net.
Dès demain matin.
Ou sur le site de reporter.net plus exactement. Merci beaucoup Hervé et Axel, à demain.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, les chiens, tout comme les hommes, apprennent et mémorisent pendant leur sommeil. Pour s'en assurer, des chercheurs hongrois ont appris à une quinzaine de chiens adultes quelques mots anglais, comme assis ou couché. Et ils ont ensuite suivi leur activité cérébrale pendant les courtes siestes qui suivaient les sessions d'entraînement. Ils démontrent que ce sont les mêmes ondes lentes qui interviennent dans les processus de mémorisation chez l'homme et chez le chien. Ces chercheurs ont été capables de prouver que les chiens qui apprennent le mieux sont ceux qui présentent le plus de ces pulsations lentes pendant leur sommeil. Si vous rêvez d'envoyer votre nom sur Mars, voici une seconde chance. En 2015, la NASA avait proposé à tous ceux qui le voulaient d'inscrire leur nom et prénom sur une micropuce de silicium qui sera fixée à la sonde InSight prévue pour 2018. Avec plus de 830 000 noms inscrits, il n'y avait plus de place et l'agence américaine a donc décidé d'ajouter une deuxième puce à ce vol, dont la mission principale sera de sonder le sol et le sous-sol martien pour voir donc vos initiales décoller vers Mars en mai 2018. Rendez-vous sur le site de la mission InSight que nous avons mis en lien sur la page Facebook de la TETOK. Et puis le monde de l'astronomie et de l'astrophysique est en pleine effervescence aujourd'hui car à 16h cet après-midi heure française, une grande annonce est prévue concernant une découverte exceptionnelle faite par les détecteurs à ondes gravitationnelles en France et aux États-Unis. On ne peut pas vous en dire plus pour l'instant, mais à l'occasion de cette annonce, le CNRS propose un Facebook Live en direct du grand détecteur à ondes gravitationnelles européen Virgo. Seul conseil, donc soyez attentifs autour de 16h sur les réseaux sociaux. Nous vous dirons tout et bien entendu, on décryptera cette annonce très importante demain à la une. Allez, la peau, dans un instant, c'est notre dossier.
Tu doucement, tu joues, tu doucement, comme ça. La vie, c'est épatant. Tout doucement, tu joues tout doucement, comme ça. La vie, je la comprends. N'allez jamais trop vite, vous avez tout le temps. Attention à la dynamite. Prenez garde au volcan, à ces jeunes énervés qui ne savent pas aller. Flânant gentiment. N'allez jamais trop vite, en un mot simplement, pour avoir de la réussite. Soyez très très prudent, l'amour ne viendra, c'est blottir dans vos bois.
Tout doucement, la voix de Feist à l'instant.
La tête au carré. Sur France Inter.
On dit que tu recherches la fontaine. Tu y es déjà allé ? Est-ce que ce visage a l'air de sortir de la fontaine de Jouance ?
Ça dépend de la lumière.
Encore un détail, Jackie. La fontaine te mettra à l'épreuve. Tu peux me croire sur parole.
Et la fontaine de Jouvence dans Pirates des Caraïbes pour ouvrir notre dossier consacré à notre peau, donc cet organe qui veut défier le temps, et c'est le dossier de l'émission cet après-midi avec mes invités Françoise Rodin et Bernard Andrieux. Françoise Rodin, vous êtes donc dermatologue.
Absolument.
Vous avez exercé pendant 40 ans en cabinet privé et à l'hôpital Saint-Louis.
Tout à fait.
Et là, vous publiez La peau, la beauté et le temps aux éditions du Cherche Midi. Puis Bernard Andrieux, vous êtes philosophe, épistémologue du corps et des pratiques culturelles, professeur à Paris Descartes, et vous avez publié cette année Restez beau aux éditions Le Murmure. On avait envie d'entamer le dialogue avec vous deux, parce qu'il semblait que ce soit assez complémentaire.
Nous sommes, hein, tout à fait.
Avec les auditeurs qui nous rejoignent, avec les messages et les questions, franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Françoise Rodin, on parle beaucoup du microbiote intestinal. Il y a d'ailleurs un grand rendez-vous qui va être organisé là jeudi à Paris avec les grands spécialistes internationaux de la question. Et on connaît moins le microbiote cutané.
Absolument. Et je suis ravie que vous en parliez, parce que je trouve que c'est profondément injuste que pour le microbiote intestinal et le microbiote cutané. On l'oublie. Or, ce microbiote cutané, d'abord, il est beaucoup plus facile d'accès pour être étudié. Il est là sous notre nez. Bon. On a quand même à peu près 1 million de bactéries par centimètre carré de peau, avec 500 espèces différentes.
Ouais. C'est comme un caniveau, finalement. Il y a la même diversité.
Oui, c'est vrai. Ouais. Enfin, c'est plus quand même, les bactéries, c'est plus chic quand même.
Oui, vous trouvez. D'accord.
Et ce microbiote cutané, il joue un rôle très important, en particulier dans la cicatrisation de la peau, dans le renouvellement cellulaire, dans l'immunité de la peau. Et c'est vraiment très très dommage que les gens ne le connaissent pas du tout.
D'autant qu'il y a des recherches qui sont bien antérieures au microbiote intestinal, hein, dans le domaine de la peau. Hein.
Mais bien entendu, c'est un petit peu le parent pauvre du microbiote.
C'est à vous de le faire connaître.
Patrice
du coup.
Debré a écrit L'homme microbiotique il n'y a pas très longtemps, ça a été publié chez Odile Jacob. Effectivement, il en parle quand même un petit peu.
Bernard Andrieux, alors la peau, ça n'est pas que cette enveloppe finalement, hein. On peut aller bien au-delà aussi de cette surface.
Oui, comme disait Paul Valéry, hein, finalement, le plus important, c'est la profondeur qu'elle nous révèle. Hein, c'est-à-dire que la peau, on va le voir, est constituée de plusieurs couches. Elle est le reflet aussi de la constitution de notre être. Hein, et donc, dans une certaine mesure, c'est à la fois un témoin de différentes couches de notre histoire et aussi une interface. Hein, comme on vient de le dire, une interface écologique, hein, avec le monde, c'est-à-dire toujours en train de s'adapter, de nous donner aussi des informations sensorielles. C'est grâce à elle, finalement, qu'on peut arriver à avoir de la proprioception, qu'on peut mesurer, effectivement, le tact, l'impact.
Le toucher,
par rapport aux autres.
Ouais. Et puis, on parle d'écosystème, hein. C'est toujours cette idée-là, au fond, hein, parler d'un environnement.
C'est vrai, mais je vous assure que dans l'esprit de beaucoup de gens, la peau, c'est une enveloppe, point barre. On n'imagine même pas qu'elle se renouvelle toutes les 3 semaines. Mm-hmm. Donc, en fait, alors que c'est un organe très complexe, et c'est un organe effectivement, c'est l'interface. C'est l'interface entre le nous, enfin le moi, et l'univers extérieur.
Elle vient manifester aussi par des symptômes. Hein,
absolument. C'est exactement
la qualité de la relation avec le monde.
Ce que vous disiez tout à l'heure, la peau a la même, enfin l'épiderme en tout cas, bon, il y a plusieurs couches, épiderme, derme, hypoderme, et l'épiderme a la même origine embryonnaire que le cerveau. Le derme, c'est autre chose, comme origine embryonnaire, c'est le mésoderme. Bon, peu importe. Mais il y a donc une connexion, mais depuis le tout début de l'embryogenèse, qui est considérable et qui va durer toute la vie. Et ces deux organes, cerveau et peau, sont complètement liés. Alors, il y a des maladies de peau qui, de toute façon, sont des vraies maladies de peau, mais qui sont considérablement aggravées par le psychisme. Le psoriasis n'est pas, par exemple, n'est pas une maladie purement psychique, mais on sait très bien que quelqu'un qui a un psoriasis, s'il a une grosse contrariété, il va faire une poussée du feu de Dieu.
Oui. Bon.
Non, et en même temps, il y a des comportements psychiatriques qui font qu'on agresse sa propre peau, c'est les pathomimies.
Exactement. Donc, c'est-à-dire, c'est quoi exactement?
Alors, pathomimie, c'est quelqu'un qui se crée volontairement des lésions. Alors, ça peut être la brûlure au fer à repasser, les ciseaux avec lesquels on s'entaille, les croûtes qu'on arrache. Mm-hmm. On se crée une maladie pour devenir quelqu'un d'intéressant, pour qu'on s'intéresse à vous et pour tenir surtout les médecins en échec. Ouais. Parce que quand ils sont des, oui, quand ils s'aperçoivent qu'on a compris, on comprend vite. Il faut très vite, ils lâchent l'affaire.
Bernard Andrieux.
Oui, c'est aussi un moyen. La peau, c'est aussi un moyen d'avoir une expérience en propre, une expérience intérieure. Hein, c'est-à-dire la question, c'est les sensations internes. Hein, finalement, les seules sensations internes qu'on a, c'est celles qui sont produites par les autres organes à l'intérieur de notre corps. Et la peau, en fait, c'est du touchant-touché, hein, disait Merleau-Ponty. C'est-à-dire que c'est à la fois quelque chose qui me permet de toucher, mais quand je touche, je suis en même temps touchant. Mmh. Et donc, finalement, il y a possibilité de pouvoir avoir une double information, une information sur le monde extérieur, mais aussi sur comment moi je ressens. Et quelles sont l'expression de ces sensations, de ces sentiments.
Et là, on a le même lien qu'avec le microbiote intestinal, d'ailleurs, hein, sur ce lien cerveau.
Absolument, tout à fait, tout à fait. Mais alors, ce qu'il faut, le microbiote, si on peut en parler deux petites secondes en plus, le microbiote, on a un microbiote qui est vraiment transitoire, c'est-à-dire tous les trois, là, on aura tout à l'heure le même microbiote parce qu'on a touché à peu près les mêmes choses, et il y a des bactéries, il y en a partout, forcément. Très bien. Mais on a un microbiote permanent, résident, qui n'appartient qu'à nous.
C'est notre carte d'identité.
Absolument, c'est notre carte d'identité, c'est comme une empreinte digitale. Aucun de nous trois, en ce moment, n'a le même microbiote résident.
Sauf que ce microbiote, il va évoluer au sein de chaque individu selon son environnement, selon ce qu'il va manger, par exemple.
Oui, alors.
Selon la pollution dans laquelle il va baigner.
Bien sûr, mais ça, c'est le transitoire, tandis que le résident, lui, il va toujours se reformer à l'identique. Mais en plus, on a le droit d'avoir d'autres bactéries.
Tiens, Michel demande d'ailleurs sur franceinter.fr s'il y a des perspectives de vrais traitements en matière de psoriasis, puisque vous l'évoquiez tout à l'heure, Françoise Rodin.
Oui, il y a des traitements en particulier avec les anticorps monoclonaux. Enfin, il y a différents niveaux de traitement suivant la gravité du psoriasis.
Avec des résultats vraiment satisfaisants
aujourd'hui. Avec des résultats satisfaisants, mais c'est une maladie chronique. C'est une maladie inflammatoire auto-immune et pour laquelle on n'a pas de guérison définitive.
Bernard Andrieux, cette quête éternelle de la beauté, parce que je rappelle que vous publiez Restez beau, donc au Murmure, ça se cristallise énormément autour de la peau quand même, hein, clairement.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, il y a trois attitudes dans le monde contemporain. Il y a ceux qui veulent absolument préserver leur peau telle qu'elle a été reçue comme capitale. Hein. Mm-hmm. Donc, dans certaines mesures, ils veulent rester beaux. Et pour cela, bien évidemment, ils vont avoir recours à des techniques selon lesquelles la peau serait une essence, une substance, et qu'il faudrait absolument la préserver. On voit le débat, par exemple, sur le soleil. Hein, dans le qu'on avait fait sur le bronzage, où effectivement là il faut se protéger absolument. Et puis il y a d'autres attitudes qui sont beaucoup plus transformatrices, c'est-à-dire qu'il s'agit
ceux qui veulent devenir beaux.
Ceux qui veulent devenir beaux. Alors eux, effectivement, ils sont capables d'entamer la peau, de pouvoir agir sur elle, de pouvoir la transformer, voire de pouvoir faire des implants, de la soulever pour glisser des choses à l'intérieur, etc. Parce que la peau, c'est aussi ce qui donne du volume. Hein, c'est-à-dire, bien évidemment, vous pouvez avoir un volume différent parce que vous allez glisser sous la peau un certain nombre d'implants qui vont transformer votre apparence.
D'ailleurs, on dit repulper la peau.
C'est pas la dermatose, c'est plutôt un terme publicitaire.
C'est ça, parce que ça peut penser à la pub.
Mais c'est vrai, vous avez tout à fait raison. Un visage jeune, c'est pas forcément un visage qui n'a pas de rides et pas de taches. C'est un visage qui a conservé ses volumes de l'enfance. Ouais. Si vous regardez un visage d'enfant, la peau est tendue, elle est élastique, elle est lisse, elle renvoie bien la lumière et elle a un beau volume. En vieillissant, tout va dégringoler, disons-le carrément. La graisse s'affaisse, les cernes se creusent et les volumes disparaissent. Donc, à la limite, quand on veut faire de la correction, plutôt que de traiter des petites rides à droite à gauche, on a toujours intérêt à commencer par essayer de refaire un volume. Mais ça, c'est dans l'objectif d'une correction. Mais ce qui est très important...
Mais ça veut dire quoi concrètement, refaire un volume? Alors c'est le bistouri,
On injecte, il y a des produits injectables. Le meilleur, le plus facile à utiliser, le plus sûr, et c'est l'acide hyaluronique, ça c'est absolument certain.
Vous dites que c'est le produit miracle qui a tout changé
franchement,
matière de dermatologie il est arrivé sur le marché.
Oui, tout à fait.
Mais disons que ça introduit une technique qui est éphémère, c'est-à-dire ça dure un certain temps, il faut le refaire régulièrement, et donc ça définit une beauté qui est beaucoup plus, qui n'est pas durable, que je peux réajuster, je peux refaire, je peux doser, je peux me transformer. transformée. Et on le voit chez certaines actrices qu'on ne citera pas.
Ou acteurs d'ailleurs.
Voilà, il y a des
gens qui ont un visage complètement transformé de par justement.
Oui, mais là,
il y a le botox aussi, et
la toxine botulique, c'est autre chose. Oui, mais là, c'est quand c'est excessif. Et justement, là, j'insiste beaucoup là-dessus dans mon livre, c'est que maintenant, on peut faire des corrections qui sont douces, qui sont adaptées à chaque visage. Chaque visage est différent et doit être corrigé d'une façon totalement personnalisée. Et il faut surtout, surtout éviter ces clones ridicules, gonflés. Et une fois par an, on fait une petite retouche pour redonner un tout petit peu de cet arrondi qu'on a perdu. Mais ce qui est quand même très important, je voudrais dire une chose très importante, c'est que le vieillissement, il est à 30% dans nos gènes, d'origine génétique. C'est notre héritage génétique. Bon. 30% de notre vieillissement vient de nos gènes. Mais 70% du vieillissement cutané vient de ce qu'on appelle maintenant l'exposome, c'est-à-dire de tout notre environnement. Essentiellement les UV, c'est une catastrophe. Enfin, on en a besoin, mais c'est une catastrophe quand même pour la peau. Le tabac, l'alcool, la pollution, le stress, etc.
Allez, on se retrouve dans un instant pour poursuivre notre discussion sur la peau et la beauté également. Franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Junior est difficile.
La tête au carré sur France Inter.
Le docteur Françoise Rodin et Bernard Andrieux, philosophe, sont mes invités. Françoise Rodin avec ce livre « La peau, la beauté et le temps », c'est aux éditions du Cherche Midi, préfacé par Éric Orsenin, qui vous a fait une belle citation d'ailleurs.
Tout à fait, je remercie beaucoup Éric qui m'a fait l'honneur et l'amitié de préfacer ce livre.
Qu'est-ce qu'il dit sur la peau alors exactement ?
Alors, il dit sur la peau, il a une très jolie phrase, enfin, il n'est pas spécialiste de la peau, mais il a une très jolie phrase, il dit que la peau est le tableau de nos secrets, voilà. La peau est le tableau de nos secrets.
Bien. Et Bernard Andrieux, vous, pas de préface.
Pas de préface, non, parce que, voilà, oui.
Avec Restez beau aux éditions Le Murmure.
Tout à fait.
Hein, et c'est paru juste avant l'été. Il y a des questions des auditeurs. Celle de Sylvie, par exemple, qui nous dit « J'ai sur le torse beaucoup de verrues séboriques qui se multiplient au cours du temps. Je ne m'expose jamais au soleil. Avez-vous des solutions à part les brûler ?» C'est lié au soleil, ces
Alors non, alors les verrues séboriques qu'on appelle plus scientifiquement kératoséboréiques, mais entre nous, ça n'a aucune importance. Ce sont des lésions qui effectivement apparaissent essentiellement sur le tronc, qui sont brunâtres, croûteuses, qui se multiplient, bien qu'elles ne soient bien évidemment pas contagieuses du tout, et ça n'a rien à voir avec le soleil. Le soleil n'a rien à voir là-dedans. Franchement, c'est sans danger, mais c'est inesthétique et il faut les faire détruire régulièrement. Et
ça se fait comment? À l'azote?
Alors, ça se fait à l'azote et ça se fait aussi au laser. L'azote, c'est très bien si on n'en a pas beaucoup. Seulement, l'azote, c'est moins précis qu'un tir au laser. On brûle la peau tout autour. Donc, on abîme un tissu cutané autour qui est sain. Alors que le laser est d'une précision extrême. Voilà. Ou par électrocoagulation.
Bernard Andrieux, on disait tout à l'heure, il y avait plusieurs types de personnes qui se trouvaient beaux, qui souhaitaient devenir beaux, ou qui, tout simplement, se trouvent beaux, tout simplement, et qui n'ont pas besoin d'avoir recours à tout un tas de techniques.
En fait, le principe du livre, c'est de montrer qu'il y a trois communautés qui se disputent un petit peu le marché de la beauté aujourd'hui. C'est-à-dire que, d'un côté, on l'a dit, il y a ceux, effectivement, qui veulent préserver un capital et qui vont se donner les moyens de faire cela. Il y a ceux qui veulent devenir beaux et ils sont dans une course, je parle d'ailleurs du Brésil à ce propos, une course presque tous les 3-4 ans où on va repasser sur...
Et chez des gens très jeunes.
Chez des gens très jeunes, donc c'est quasiment plus que des rites de passage. C'est vraiment presque une obligation, une concurrence finalement entre les individus, pour les hommes comme pour les femmes. Très, très impressionnant. Et puis il y a effectivement un courant qui est plus éco-beauté, c'est-à-dire des gens qui sont plutôt dans l'idée, comme disait Kant, qu'ils font pas beaucoup d'importance pour eux aux normes sociales, et ils se trouvent beaux. Donc il y a tout un courant qu'on appelle body positivity aux États-Unis,
qui rejette aussi toutes les
contraintes finalement imposées très souvent de l'extérieur. Par contre, ils sont dans des démarches bio, ils sont dans des démarches retrouvées par la pureté du produit, une beauté entre guillemets qui serait naturelle.
Eh bien, c'est tout le contraire de ce qu'on va entendre dans cet extrait, avec une émission qui s'appelle Relooking Extrême, une émission américaine, et vous allez tout de suite comprendre en écoutant justement cet extrait.
Alex, bonjour.
Je trouve que j'ai trop de peau. C'est pas seulement une question de pouvoir me montrer torse nu, même si ça compte. Mais quand je vais dehors pour faire du sport ou courir, ça fait un mouvement bizarre.
Effectivement, Alex, vous avez une grande quantité de peau en excédent. On peut voir des rougeurs, une irritation, etc. La bonne nouvelle, c'est que vous êtes un candidat idéal pour cette opération.
Super, c'est génial. J'ai hâte.
Bonne nouvelle,
Très bonne nouvelle. Subir cette opération sera l'apothéose de cette année. Ça va être incroyable.
Voilà, Françoise Rodin, ça c'est l'approche américaine de la chirurgie esthétique quand même.
C'est pas du tout la nôtre. Nous, on est plutôt dans ce qu'on appelle la French touch, c'est-à-dire qu'il faut faire des choses délicatement.
Faut pas que ça se voit en fait.
Alors, une chirurgie esthétique ou un acte esthétique, injection, etc., on ne doit pas le voir. Il faut pas que les gens vous disent autour de vous « Oh là là, qu'est-ce que tu t'es fait faire ?» Non, c'est pas ça du tout. On doit vous dire « Tu as bonne mine, tu es en forme, tu es superbe. »
C'est ça.
Voilà. Donc,
c'est l'hypocrisie française quand même, non? Un petit peu.
Non.
C'est la French touch pour vous.
C'est la French touch.
D'accord,
voilà,
ok.
C'est important de travailler comme ça. Il faut quand même dire qu'on passe pas forcément par la case injection, chirurgie, etc. Il y a des cosmétiques maintenant qui sont extrêmement actifs, c'est la cosméceutique. Pourquoi cosméceutique? Parce que ça se rapproche du terme thérapeutique. Et ce sont vraiment presque, pas des médicaments, mais presque. Et quand on les utilise très tôt dans la vie, et suffisamment longtemps et régulièrement, on arrive à de très bon résultat et on n'a pas besoin, pas obligatoirement besoin d'autres techniques.
Bernard Andrieux, la médecine esthétique, alors c'est quoi au fond ?
Oui, on avait appelé ça l'auto-santé, l'auto-beauté, hein, c'est-à-dire qu'il y a toujours le désir, Michel Foucault l'avait précisé finalement, de se subjectiver par des techniques qu'on va appliquer sur soi-même.
Et on se donne une seconde chance.
Voilà, hein, on se donne...
Par rapport à la nature.
Oui, par rapport à la nature, et soit effectivement on va renoncer définitivement, on l'a vu dans l'émission, on va vouloir intervenir finalement sur un capital et on va essayer d'éliminer ce qui serait entre guillemets mauvais par rapport à une certaine image qu'on veut de soi-même. Mm-hmm. Soit effectivement, on a le désir finalement de se sculpter, de définir trait par trait finalement une personnalité dermique, mm-hmm, qui serait plus à même, hein, finalement, de correspondre à ce qu'on voudrait être. Hein, donc là, après, la question c'est qui décide de ça ? Est-ce que c'est vraiment l'individu tout seul, avec son excellente dermatologue, conseiller, etc., à travers une voie ? Ou est-ce que c'est aussi tout un marché, tout un contexte, toute une rivalité dans le monde du travail, hein ? C'est-à-dire, on parlait tout à l'heure de la question de rester jeune. On sait très bien qu'il faut manifester les traits, hein, sur la peau, finalement, de l'activité, de la vitalité, mm-hmm, etc. Donc, il y a aussi des injonctions.
Avec, hein, différents stades aussi d'augmentation, parce que c'est l'homme augmenté dont vous nous parlez, là,
exactement,
finalement.
Exactement, c'est la peau, la peau augmentée, la peau tirée, on disait autrefois.
L'homme amélioré, en tout cas.
Mais en tout cas...
Pas vraiment augmenté, mais amélioré.
Voilà. Ouais. Ça peut être une double amélioration, absolument. Je pense, une amélioration à la fois quantitative, mais aussi une amélioration qualitative qui renvoie à quelle est l'image, finalement, du corps que je veux avoir.
François
Alors ça, là, on en arrive à une phrase du sociologue David Le Breton, qui est très très vrai. Il dit que le corps... n'est plus un destin auquel on s'abandonne, c'est un objet que l'on transforme à sa guise. Voilà, c'est ça. Donc avant, on laissait vieillir, on laissait aller. Maintenant, on a pris conscience qu'on pouvait transformer ce corps, l'améliorer.
Alors, on voyait dans l'extrait là qu'on écoutait de Relooking Extreme, là on coupe vraiment des quartiers de peau, quoi.
Pas, hein. Oui, mais là on devient vraiment. Oui, mais c'est pas. C'est
je
les
crois
excès,
que c'est pas simplement un objet. Hein. Ce qui est nouveau, c'est qu'on a une relation nouvelle au corps vivant. Hein, c'est-à-dire que la peau est considérée comme une partie de notre vivant et que finalement on peut bien sûr l'objectiver, l'instrumentaliser pour en faire à peu près ce qu'on voudrait, hein, mais c'est aussi parce qu'on a une relation nouvelle, hein, finalement une médecine, vous l'avez dit, cosmétique, mais on a une relation nouvelle à comment est-ce qu'on pourrait mieux connaître, hein. On parlait tout à l'heure des bactéries, mais mieux se connaître, hein, pour mieux vivre aussi peut-être en harmonie avec son corps.
Et ça, c'est assez nouveau chez les Français quand même. Parce qu'on voit que les Américains ont ce rapport-là depuis beaucoup plus longtemps que nous, en fait. Hein.
Disons que ce qui est nouveau, c'est l'idée qu'il y a une sorte de conjonction, y compris dans le merchandising, sur ce qu'on appelait loco-bio-beauté. Hein, c'est-à-dire on va avoir une démarche écologique, mais il faut avoir une garantie que ces produits ne sont pas nocifs, effectivement, pour la peau. Et on va essayer de se construire, hein, une identité.
Françoise Rodin, Dominique demande sur franceinter.fr, comment préserver son capital peau à la ménopause sans traitement substitutif ?
Alors ça, c'est pas très facile, parce qu'effectivement, l'arrêt des sécrétions d'hormones, des œstrogènes, c'est un petit peu la catastrophe pour la peau. Alors, pour toutes celles qui peuvent supporter, qui n'ont pas de contre-indication, le traitement substitutif hormonal est quand même une excellente chose. Bon, si on ne peut pas ou si on ne veut pas, il faut redoubler de soins, nourrir la peau, ça sèche, ça atrophie, donc il faut la nourrir beaucoup plus, faire attention à son alimentation, consommer des aliments riches en antioxydants, puisque c'est l'oxydation cellulaire qui aggrave le vieillissement cellulaire, le vieillissement de la peau et de tout l'organisme. Parce qu'il y a aussi une chose qu'il faut dire, c'est que ce vieillissement cutané, c'est la vitrine de notre vieillissement interne. C'est la première manifestation de l'involution humaine.
Ouais. Mais est-ce que ça dit quelque chose de l'état de santé à l'intérieur
Bien
du corps
sûr. Alors, justement, la peau a ce côté fascinant parce que c'est un organe qui a ses maladies propres, les maladies de la peau, l'acné, l'eczéma, le psoriasis, bon, j'en passe, et des meilleurs, mais qui reflète les maladies internes. Oui. C'est-à-dire que très souvent, beaucoup de maladies, ce qu'on appelle de médecine interne, les maladies auto-immunes, les lupus, les sclérodermies, des choses comme ça, le diagnostic, on le fait pratiquement sur la peau.
En regardant la peau.
En regardant la peau.
Allez, on se retrouve dans un instant. Dernière partie de notre discussion et toujours les messages des auditeurs.
Everybody sings the same song. It goes tonight, 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 tonight. I never realized tonight. These artists talk so much about dying. But truth be told, we all have the same end. Could make you cry, 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 cry. But I'm telling you, this is the best news you're getting all week. Oh, sure, it's ruling the airwaves. What remains of the airwaves? And we're frankly thankful for the market psychology you're helping us to. Is everybody feeling the same stuff? We're all wild, except for you. And you know who you are. This is a love song. And you're getting older. I promise you this, you're getting older. And there's improvements in less. You're such a winner. But the future's a nightmare. And there's nothing I can do. Nothing anyone can do about this. I'm offering you a chance to get even. But you know very well the dialect of negation. Should enemies haunt you with spit and derision? But friends are the ones who can put you in exile. But that's not right. And you're too sharp to be used, or you're too shocked from being used by these bullying children of the fabulous, raffling off limited edition shoes. And what's it you do again?
Well, I'm a reminder, the hobbled veteran of the disc shop inquisition, set to parry the cocksure mem's stick tilt with my own late-era middle-aged rambling.
Every love and favors the same things. It's all touch me, touch me, touch me, touch me. We maybe realize what it is we need before we die. But out of the little rooms and onto the streets, you've lost your internet and we've lost our memory. We had a paper trail that led to our secrets, but embarrassing pictures have now all been deleted by versions of selves that we thought were the best ones, till versions of versions of others repeating, come laughing at everything we thought was important.
LCD Sound System avec Tonight.
Le secret d'une peau qui paraît plus jeune se trouve en vous. La nouvelle crème de jour Anti-Age à l'extrait de magnolia et à l'acide hyaluronique stimule la régénération cellulaire en profondeur. Les rides sont atténuées et votre peau est raffermie. La nouvelle crème de jour cellulaire Anti-Age pour paraître visiblement plus jeune. La tête au carré.
sur France Inter.
Voilà, c'est crème anti-âge. Alors, on a pioché, on avait largement le choix dans tout ce que la publicité propose, avec toujours d'ailleurs les mêmes termes, Bernard André.
Oui, c'est toujours ce thème de l'activation interne. C'est-à-dire qu'il s'agit d'aller chercher des ressources capacitaires qui seraient dans le corps, comme ça, dans la peau. Et bien sûr, comme elles sont invisibles à l'œil nu, bien évidemment, il y a cette idée que le produit va servir de principe activant et va pouvoir faire surgir, retisser de l'intérieur finalement cette peau pour donner quelque chose de l'ordre de l'anti-âge, justement.
Catherine nous dit, comment pouvez-vous dire qu'il existe des cosmétiques efficaces alors que nombre de scientifiques et de médecins dénoncent cette affirmation souvent proche de l'arnaque? Alors, il y a beaucoup d'études qui ont été faites pour montrer qu'il y a certaines crèmes qui ne fonctionnent absolument pas, quand même.
Alors, c'est évident.
Françoise Rodin.
C'est évident. Il y a, par contre, il y a, à l'heure actuelle, vous m'auriez posé cette question il y a 20 ans, j'aurais été tout à fait d'accord avec vous. Mais les choses ont beaucoup changé. D'abord, on a des excipients, parce que l'excipient, c'est quand même important. L'excipient, c'est contient le véhicule qui va transporter la molécule. Alors, il faut quand même distinguer dans les cosmétiques ceux qui ont une fonction d'hydratation, de protection de surface, parce que ce qui est très très important, c'est qu'il faut pas que l'eau quitte la peau. Donc, il faut l'empêcher de sortir de la peau. Donc, il faut mettre une crème qui va l'empêcher de sortir. Donc ça, c'est quand même une notion très importante. Et déjà, en faisant simplement ça, on est actif. Et puis, on arrive maintenant, grâce au progrès de la connaissance des mécanismes du vieillissement cellulaire de la peau, qui ont énormément progressé, et au progrès de la pharmacocosmétologie, on a maintenant des molécules dont on sait parfaitement qu'elles sont tout à fait capables d'activer, de cibler certaines cellules de l'épiderme et même du derme superficiel. Ce qui est la partie la plus importante de la peau pour le vieillissement. Et ces produits sont des actifs et ils sont considérés quasiment comme des médicaments. Tout simplement parce que il faut avoir la bonne concentration au bon endroit. Donc, on a des produits qui sont vraiment tout à fait susceptible d'être actif.
Bernard Andrieux, le mythe de Jouvence, il travaille là-dessus, au fond.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a...
Sur toute cette industrie cosmétique.
Voilà, il y a dans la cosmétique, il y a deux choses. Il y a ce qu'a dit très bien notre ami dermatologue, c'est qu'on voit très bien qu'il y a la question de la qualité des produits, et il y a aussi la question des rituels de soins. C'est-à-dire que on voit que les hommes aujourd'hui accèdent à la question du rituel de soins. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire finalement que prendre soin de soi, c'est faire une sorte de rencontre quotidienne c'est plus simplement la question de la propreté. C'est aussi la question de comment je vais me construire au quotidien une relation écologique, d'auto-beauté, d'auto-construction, pour pouvoir être dans une dimension à la fois sensorielle, mais aussi esthétique. Et ça, c'est très important, parce que le geste du soin, c'est aussi quelque chose qui fait partie d'un apprentissage, finalement, à la fois individuel et social.
D'ailleurs, vous dites qu'il y a des étapes clés de la vie, à des moments de transition importants, justement. Mais comme par hasard, on a un rapport qui change aussi avec la peau.
Voilà, donc là, on le voit, les moments peut-être de séparation, les moments de rupture, les moments de reconfiguration de son existence, la passation avec l'âge. Finalement, fait que aujourd'hui, finalement, on va d'une part essayer de se maintenir dans un âge, alors qui peut être effectivement très virtuel, parce qu'on a des gens qui ont aujourd'hui 65 ans et qui font 50 ans. J'exagère, mais vous voyez, donc il y a cette idée de quand est-ce que je vais vieillir. C'est-à-dire finalement, les personnes qui sont très altérées, qui ont des visages très abîmés, etc., ils sont invisibles socialement. C'est-à-dire, on ne les voit plus. Voilà, on ne les voit plus. Ils sont dans les EHPAD, ils sont dans... Voilà, donc il n'y a plus d'image. Et donc, il y a un mouvement de révolte aussi qui est apparu récemment avec des gens qui avaient des peaux ridées, des visages ridés, souvent parce qu'ils sont exposés dans les années 70 très fortement au soleil, mais qui disent, nous, on a le droit aussi à une visibilité sociale.
Alors justement, la beauté de ces visages ridés, Françoise Rodin, il faut quand même en parler, parce qu'il y a ce lissage aussi qui se fait aujourd'hui. Alors c'est vrai, avec ces techniques qui peuvent rendre plus en forme, plus agréable à regarder, mais un visage aussi avec des sillons qui racontent quelque chose, il y a quand même aussi quelque chose d'intéressant, non?
Oui, c'est intéressant. Ah, alors je suis tout à fait contre les visages inexpressifs, botoxés à mort, enfin ça c'est épouvantable. Je dirais même qu'il y a des moments où vous voyez une personne, vous ne pouvez même pas savoir si elle a 40 ans ou 80. Et ça, c'est très angoissant. Ça donne une drôle d'impression. Mm-hmm.
Mais il y a des visages burinés qui sont magnifiques.
Il y a des visages, absolument. Alors, burinés, oui. Il y a de jolies rides. Alors, d'abord, les rides horizontales, qui sont des rides de sourire, mm-hmm. Genre la patte doigt, quand on sourit, bon, ça remonte un petit peu les coins des lèvres. Ça, c'est tout à fait agréable. Un visage mobile, c'est agréable. Bon, il ne faut pas non plus, quand même, que ce soit par trop excessif. Je pense que un visage, il y a des femmes très âgées qui sont très belles. On est parmi les actrices, une actrice Gisèle Casadesus qui vient de décéder était une très 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 belle femme à 104 ans parce qu'elle avait encore un œil pétillant, vif, un sourire. C'est pas malheureusement le cas de tous les visages marqués. Je suis pas du tout pour le zéro ride, loin de là.
Ouais. Rémi nous dit agression de la peau. Vous n'avez pas encore parlé du bronzage. Ben si.
Mais si, on en a parlé. On a même fait un excellent livre sur le bronzage au CNRS. Non, ouais. ce qui a changé, hein, c'est lorsque Fitzpatrick va en 76 faire tout ce travail justement de démarcation sur les différents types, hein, finalement, à la fois de peau et puis le type de protection qu'il faut dégager. On voit aujourd'hui, et je regardais la campagne de cet été justement, avec l'idée quand même qui était imposée en Australie récemment, d'une protection quasiment totale, c'est-à-dire avec zéro exposition, ce qui pose d'autres problèmes, bien évidemment. J'étais encore au Brésil cet été où on voit des gens en combinaison toute la journée sur la plage et ce qui fait qu'ils ne profitent même plus de l'effet vitamine du soleil.
Allez, une dernière question, Samantha demande pourquoi les peaux claires vieillissent plus rapidement que les peaux foncées.
Ah, ça c'est normal. C'est vrai. Les peaux claires, fines, vieillissent plus rapidement. Alors pourquoi ? Il y a moins de matière. Le derme se fragilise plus vite. Mm-hmm. Le soleil, il y a beaucoup moins de mélanocytes. Alors ce qu'il faut savoir quand même, c'est que le bronzage, c'est notre premier écran solaire naturel. Il ne faut pas en abuser non plus. Hein. Mm-hmm. Mais quand on a une peau très claire, on a peu de capacité de bronzage. Et de ce fait, très vite, le soleil va altérer.
Merci beaucoup en tout cas à tous les deux, docteur Françoise Rodin, La peau, la beauté et le temps. C'est donc aux éditions du Cherche Midi, avec beaucoup de conseils très pratiques également dans cet ouvrage. Et puis Bernard Andrieux, le livre du philosophe, ça s'appelle Restez beau, aux éditions Le Murmure. Merci beaucoup.
Merci.
À tous les deux.
La tête au carré.
Et c'est avec beaucoup de plaisir que l'on retrouve une des grandes voix de France Inter, Stéphane Paoli, qui est avec nous. Bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu, bonjour à vous tous.
En duplex des studios d'Aix-en-Provence, très heureux de vous entendre. Stéphane, on vous retrouve donc depuis le sud de la France parce que demain, mardi, commencent les rendez-vous de demain que vous avez imaginé, que vous allez animer. Quel est le principe, Stéphane, exactement ?
En fait, c'est Thierry Fabre qui a tout imaginé et je me suis fait un plaisir de l'accompagner dans cette aventure. En fait, c'est essayer de comprendre avec des chercheurs de toutes disciplines qui sont en résidence à Marseille, essayer de comprendre ce qui nous arrive, ce grand nous collectif dans un monde qui est celui de la complexité. Et on va commencer demain avec l'astrophysicien Jean-Pierre Luminet et avec un spécialiste, un professeur d'histoire des idées qui s'appelle Levent Yılmaz. Et le thème du débat, de la discussion, ce sera pas un débat, c'est plus une discussion, ce sera ordre et désordre du temps. Et au passage, d'ailleurs, la peau n'y échappe pas non plus.
Oui, c'est vrai, absolument.
À cette question de l'ordre et du désordre du temps. Et la grande question, au fond, demain soir, ce sera d'essayer de comprendre ce que nous avons fait du temps.
Alors, comment les sciences éclairent l'avenir, c'est ça, c'est le sous-titre de ce rendez-vous ?
Oui, parce que vous, Mathieu, si quelqu'un est bien placé pour le savoir, les sciences sont un extraordinaire moyen d'exploration. Et aussi une clé pour comprendre encore une fois le monde et sa complexité, la complexité au sens des sociologues, quand tout bouge en même temps, comment arriver à trouver la meilleure grille de lecture. Eh bien souvent les chercheurs, encore une fois, toutes les disciplines y participent, peuvent nous permettre d'avancer un petit peu dans ce monde obscur.
Alors demain, donc, c'est la première de ce rendez-vous qui va en comporter au moins 6, je crois, et ça sera à 19h au théâtre du gymnase à Marseille.
Voilà, c'est un sur la Canebière, donc ouais. Un lieu un peu essentiel à Marseille. C'est gratuit, ouais. C'est ouvert à tout le monde. Et je ne sais plus qui disait, mais j'ai trouvé que c'est une belle image. C'est le quartier latin de Marseille dans une ville grecque, parce que sur cette Canebière, à cet endroit autour du gymnase, vous avez un pôle universitaire, vous avez c'est le vrai. Grand lycée de Marseille. Et c'est vraiment tellement agréable de pouvoir montrer aussi cette autre image de Marseille. Marseille, voilà. C'est un lieu magnifique, merveilleux. Et c'est bien d'en parler différemment.
Et ce sont les rendez-vous de demain, comment les sciences éclairent l'avenir. Premier rendez-vous donc demain au Théâtre du Gymnase à Marseille avec Jean-Pierre Luminet qui est astrophysicien. L'entrée est libre et on peut avoir tous les renseignements sur lestheatres.net qui est en lien sur La Tête au Carré. Merci Stéphane Paoli, très heureux de vous avoir entendu.
Salut cher Mathieu.
À bientôt, au revoir. Ainsi s'achève cette Tête au Carré. Merci à Théo Gomard qui était à la technique. Demain, je recevrai le sociologue Bruno Latour pour une conversation, entre autres, autour du climat et de la mondialisation.